Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Bernard de Cotigny.
L'Immaculée Conception, ce 8 décembre, Benoît XVI s'est rendu place d'Espagne dans le centre de Rome pour fleurir une statue de la Vierge, l'occasion pour le pape de nous parler du message de Marie à l'homme contemporain, un message sur la joie de croire et de dire oui à Dieu. Ce 8 décembre, bien évidemment, intensément vécu dans les sanctuaires mariaux, notamment à Lourdes. Monseigneur Brouet, l'évêque de Tarbes-Lourdes, reviendra sur la signification théologique de cette fête et sur la résonance qu'elle peut avoir aujourd'hui. Nous parlerons ensuite de Twitter, de l'arrivée du pape sur le réseau social. Sœur Catherine Aubin, avec son livre Pour Dieu, donnera la parole à Jean-Michel Dunant, qui a publié Libre de la honte à la lumière. Nous retrouverons enfin le père Pascal Montavi et son commentaire de l'évangile de ce dimanche. Le 8 décembre, l'Église célèbre donc la solennité de l'Immaculée Conception de Marie, fêtée depuis le Moyen-Âge et proclamée dogme en 1854 par Pie IX. Comme chaque année, à la même date, le pape s'est rendu place d'Espagne, dans le centre historique de Rome, pour rendre hommage à la statue de la Vierge, l'occasion pour Benoît XVI de nous dire quel est, selon lui, le triple message de Marie à l'homme contemporain. Thomas Chabol.
Tout d'abord, il faut comprendre que ce moment décisif pour l'humanité qu'a représenté le moment où Dieu s'est fait homme fut entouré d'un grand silence. Un événement qui, s'il se déroulait aujourd'hui, ne ferait certainement pas la une des médias. Et le pape d'en déduire que de très grandes choses souvent passent inaperçues et que le silence se révèle plus fécond que l'agitation frénétique de nos villes et de nos vies dans un activisme qui nous empêche désormais de nous arrêter et d'écouter la voix de Dieu. Marie, elle, a pu entendre cet appel. Pour comprendre quel sens donner à notre vie, faisons donc un peu d'introspection. Le deuxième message de Marie est que le salut du monde n'est pas l'œuvre de l'homme, ni par la science, la technique ou l'idéologie, mais vient de la grâce de Dieu, de la force de son amour, plus fort que le mal et tous les égoïsmes. Cette force comble les vides de nos existences, rien à voir avec les faux remèdes de ce monde. Le pape citant surtout les puits sans fond de la drogue, mais Marie nous dit que même si l'homme est tombé bien bas, il n'est jamais trop bas pour Dieu qui est descendu jusqu'aux enfers. Troisième message de Marie, elle nous parle de la joie authentique qui se répand dans le cœur libéré du péché. Et le pape de conclure, le christianisme est essentiellement une bonne nouvelle, même si certains pensent qu'il est obstacle à la joie pour n'y voir qu'un ensemble d'interdits et de règles.
Chez la mère de Jésus, il n'y a aucune opposition entre Dieu et son être, mais pleine communion, pleine entente. Voilà encore ce que déclarait samedi midi le pape lors de l'Angélus place Saint-Pierre pour une catéchèse centrée toujours sur Marie, l'Immaculée Conception. La lumière qui émane de la figure de Marie, devait ajouter le pape, nous aide à comprendre le vrai sens du péché originel. Entre la Vierge et Dieu, expliqué Benoît XVI, existe un oui réciproque de Dieu à elle et d'elle à Dieu. Marie est sans péché parce qu'elle est tout entière de Dieu. En conclusion, a commenté le pape, la doctrine de l'Immaculée Conception de Marie exprime la certitude de foi que les promesses de Dieu se sont réalisées. En Marie, la parole de Dieu trouve une écoute et une réponse, ce oui qui lui permet de prendre chair et de venir habiter parmi nous. En Marie, l'humanité et l'histoire s'ouvrent réellement à Dieu, accueillent sa grâce, sont disposés à réaliser sa volonté. Mais écoutons le pape s'adresser aux pèlerins francophones.
En célébrant la solennité de l'Immaculée Conception, chers pèlerins francophones, nous fêtons la splendeur du dessein de l'amour de Dieu qui en Jésus est né de Marie pour nous sauver du péché. La Vierge s'est remise totalement en celui qui l'a créé. Comme elle, celui qui se tourne vers Dieu trouve la liberté véritable. Saluons Marie la beauté et la pureté à laquelle nous sommes tous appelés. Qu'elle nous apprenne à croire en Dieu qui nous dit toujours « Sois sans crainte ». Puisse cette fête fortifier notre foi avec ma bénédiction.
À Lourdes, où la Vierge Marie se présenta elle-même comme Immaculée Conception à la petite Bernadette Soubirous, cette fête a bien évidemment une importance toute particulière. Plus de 4000 pèlerins étaient attendus pour la messe solennelle de ce 8 décembre en la basilique souterraine Saint-Pie-X. Monseigneur Nicolas Brouet, évêque de Tarbes-Lourdes, revient sur la signification théologique de cette fête et sur la résonance qu'elle peut avoir aujourd'hui. Il est interrogé par Manuela Affidje.
La fête fête de l'Immaculée Conception, c'est la fête par laquelle nous célébrons la conception immaculée de Marie, c'est-à-dire qu'en elle, il n'y a pas de place pour la résistance à Dieu. Elle est complètement ouverte à Dieu. Il n'y a pas de fermeture à Dieu en elle. Et les tableaux de Fra Angelico expriment très bien d'ailleurs, dans les tableaux de Fra Angelico qui montrent l'Annonciation, eh bien les portes sont ouvertes. Et en Marie, tout est ouvert à la grâce. C'est pour ça que la fête a un relief particulier cette année de la foi, parce que justement Marie nous apprend comment nous ouvrir encore et encore à l'action du Seigneur en nous.
Très concrètement, quel message peut apporter cette fête aujourd'hui ?
Lorsque le pape Benoît XVI est venu en 2008 à Lourdes, parce que vous savez qu'à Lourdes, Marie s'est présentée comme Immaculée Conception le 25 mars, le jour de l'Annonciation. Elle a donné son nom et puis elle a dit « Je suis Immaculée Conception », ce que Bernadette n'a pas compris tout de suite. Lorsque le pape est venu, il a dit cette chose très belle. Au fond, Marie elle est signe de communion parce que le péché divise. Et là où il n'y a pas de péché, ben, il y a la communion. L'Immaculée Conception de Marie, elle nous parle d'un monde, justement, d'un monde guéri du péché, où justement la communion entre les hommes, la paix entre les hommes, voilà, est établie par la grâce. Lorsque l'homme combat son propre péché, lorsqu'il s'ouvre à la grâce, lorsqu'il laisse l'Esprit Saint le convertir, eh bien, c'est la communion entre les hommes qui est instaurée.
Vous l'avez dit, cette fête est très chère à Lourdes pour les sanctuaires. Les sanctuaires qui ont vécu une année plus ou moins difficile, comment vous vous préparez ? Dans quel esprit est-ce que vous allez accueillir les fidèles cette année ?
Il faut savoir que, vous savez, en décembre, on est hors saison. On est hors saison, ça veut dire qu'il n'y a plus de pèlerinage. On est entre la Toussaint et Pâques et le sanctuaire est vide. Mais le 8 décembre, il y a beaucoup, beaucoup de monde qui vient. Il y a beaucoup d'Italiens qui viennent en particulier et qui sont annoncés. Et je crois que c'est un rendez-vous avec Marie avant Noël. Alors évidemment, bon, on a été touché par les inondations, on a été touché par un déficit financier du sanctuaire. Moi, je crois que la démarche que font les gens, c'est vraiment une démarche à la fois de foi, d'affection pour Lourdes. Les gens reviennent comme à la maison, se mettre entre les bras de Marie, la prier, voilà, lui présenter leur vie, leurs difficultés, leurs épreuves. Il y a comme un rendez-vous avec leur mère du ciel, avec la mère de l'Église.
C'était Mgr Brouet, l'évêque de Tarbes Lourdes, interrogé par Manuela Afidji. À quelques jours du premier tweet de Benoît XVI, le 12 décembre prochain, le directeur de la salle de presse du Saint-Siège publie un éditorial sur l'événement, l'occasion pour le père Lombardi d'analyser les réactions provoquées par l'arrivée du pape sur le réseau social, ainsi que sa portée. Nadège de Krimps.
Le père Lombardi distingue trois types de réactions. Il y a d'abord ceux qui regardent avec mépris le fait que Benoît XVI est désormais un comte. Qu'est-ce qu'il fait là, cet intrus, se demande-t-il. Il se moque du pape, avant enfin de lui tourner le dos, rapporte le directeur de la salle de presse du Saint-Siège dans son éditorial. D'autres se disent « Amusant, voyons s'il aura plus de followers que d'autres VIP, des acteurs et des footballeurs », avant finalement de s'en désintéresser aussi. Enfin, poursuit le père Lombardi, il y a ceux qui pensent « Bien ». Quelqu'un se préoccupe de nous dire des choses importantes à chacun d'entre nous. Nous serons attentifs et contents de retweeter aux amis qui, comme nous, sont en recherche. Et là, explique le père Lombardi, les tweets du pape porteront leurs fruits, se multiplieront par 30, 60. Quant à la dimension du message, 140 caractères maximum pour un tweet, ce n'est pas rien, note le père Lombardi. Prenons exemple sur la majeure partie des versets de l'Évangile qui en contient encore moins. Les béatitudes sont encore plus courtes, ajoute-t-il. Le père Lombardi loue ainsi les vertus de la concision. L'important est de comprendre dans quel contexte un tweet prend tout son sens. D'où vient-il ? Vers quelle direction se dirige-t-il ? Bien sûr, le monde ne sera pas sauvé à coup de tweet, explique le directeur de la salle de presse du Saint-Siège. Mais dans les milliards de baptisés à travers le monde, plusieurs millions auront l'occasion d'entendre le pape, aussi par cette voix, le sentir plus proche d'eux. C'est un nouveau service de l'Évangile. 3 jours après son ouverture, le compte Twitter du pape a déjà 700 000 followers et les tweets se sont multipliés. Le million de followers sera franchi à Noël, mais ce n'est pas le nombre qui compte. Prenant la parole sur Radio Vatican, Mgr Claudio Mariacelli, président du dicastère des communications sociales, a estimé que le nombre du million de followers serait franchi avant les fêtes de Noël. Un succès qui satisfait le prélat, sans l'émouvoir. Il faut dire que de nombreux tweets affluent vers le nouveau compte du pape, des messages souvent positifs, mais aussi négatifs et parfois offensants, a reconnu Mgr Celli. Une animosité qui ne l'a pas surpris, mais il préfère s'attarder sur les questions intéressantes concernant la foi, mais aussi les tweets humoristiques, symbole de la culture du moment.
Et retrouvons à présent Sœur Catherine Aubin et son livre pour Dieu. Pour vivre enfin au grand jour, Jean-Michel Dunant a choisi d'écrire et de raconter son itinéraire. Dans son livre « Libre de la honte à la lumière », il raconte comment à l'adolescence il prend conscience qu'il est homosexuel. La foi intense qui anime sa vie, son aspiration au sacerdoce, se heurte douloureusement à la position notamment de l'Église sur l'homosexualité. Après de longues années de déchirement intérieur et de souffrance, l'auteur finit par assumer cette homosexualité sans pour autant renoncer à sa foi. Dans les années 2000, il fonde, en lien avec des monastères, la communion Béthanie, un service des personnes homosensibles et transgenres. Tout un parcours de réconciliation qu'il livre aujourd'hui avec courage et honnêteté en appelant l'Église à la rencontre de l'autre différent. Une rencontre signée Catherine Aubin.
Jean-Michel Dunant, le titre de votre livre, c'est « Libre, de la honte à la lumière ». Et vous écrivez dans ce livre « L'amour est de toute beauté, il a été salvateur, il m'a permis de ne plus me percevoir comme infecté par l'homosexualité comme on peut l'être par un virus ». Jean-Michel Dunant, le pourquoi de ce livre ?
Tout simplement, en reprenant la phrase que j'ai mise en exergue de mon livre « Donne ta note juste, juste ta note ». Mon livre n'est que simplement mon témoignage. C'est ce que j'ai vécu et ce que j'essaye de vivre aujourd'hui.
Quelles ont été les grandes étapes qui vous ont permis de dire aujourd'hui, catholique et homosexuel, je veux vivre ma foi et ma différence?
J'ai découvert à la fois la beauté du Christ et en même temps cette réalité de mon homosexualité, je ne l'appelais pas encore comme cela bien sûr dans mon enfance, quasiment en même temps. Et ces deux réalités ont grandi en moi jusqu'à provoquer un vrai écartèlement, des moments très difficiles, des moments où j'avais beaucoup de mal à m'estimer moi-même, à accepter un regard de compréhension et de bienveillance de la part des autres. Finalement, un long parcours de la honte. C'est pourquoi le sous-titre de mon livre est « De la honte vers la lumière ». Et puis, progressivement, grâce à des rencontres, grâce à une fraternité, grâce aussi à cette intimité, je le crois, avec le Christ, eh bien, je suis tout doucement arrivé, si ce n'est à la lumière, en tout cas à l'aurore.
Vous êtes à l'origine d'une communauté qui s'appelle la Communion de Béthanie. Vous pouvez nous en parler ?
Alors, ce n'est pas une communauté de vie, c'est une fraternité de prière non résidentielle. Nous sommes un peu partout en France aujourd'hui. Nous nous retrouvons deux fois dans l'année, une fois au début de l'Avent, une fois au début de l'été, dans des monastères pour vivre un temps de retraite spirituelle. Notre communion est en lien fraternel avec des monastères. Notre propos est très simple. Notre propos, c'est simplement d'accueillir la présence du Christ dans nos vies. Nous ne sommes pas un ghetto fermé sur nous-mêmes. Il y a bien sûr parmi nous des personnes homosensibles et transidentitaires, transgenres. Il y a aussi des personnes hétéros qui sont sensibilisés par leurs enfants ou par des membres de leur famille à cette réalité. Donc notre propos, c'est d'accueillir le Christ dans nos vies, de prier, d'intercéder, de présenter au Seigneur les personnes qui nous sont confiées au fil des jours, et puis de vivre Béthanie, c'est-à-dire la simple parabole de l'amitié. Jésus à Béthanie vit simplement la parabole de l'amitié avec cette famille un peu atypique, deux sœurs et un frère, Marc, Marie et Lazare. Un jour, une prieure d'un monastère cistercien nous a dit cette phrase très belle. La vocation de la communion Béthanie, c'est de murmurer au cœur de chaque personne que vous rencontrez, là où tu es, j'essaye d'être. Nous ne sommes pas des spécialistes ou des théoriciens de l'homosexualité ou de la transsexualité. Nous ne sommes pas des théologiens moralistes ni des psychologues. Nous essayons d'être là où sont les personnes et de cheminer là où elles cheminent, très simplement. Je me réfère à frère Roger de Thésée, qui n'a jamais été un grand théoricien de l'œcuménisme. Et on lui a d'ailleurs reproché de son vivant. Mais il a eu cette intuition, des personnes ne se rencontrent pas, ne prient pas ensemble, eh bien, on va les réunir autour de la croix du Christ.
Christ, eh bien nous, c'est ce que nous vivons.
Aujourd'hui, qu'est-ce que vous demandez à l'Église ?
Tout simplement, quelle est l'audace de rencontrer les personnes et de vivre un petit bout de chemin avec les personnes. Et à ce moment-là, vous savez, on quitte les idées toutes faites, on quitte les idéologies simplistes, de part et d'autre d'ailleurs. On se rencontre, puis il peut se vivre de nouvelles pages d'évangile, me semble-t-il.
Et place à présent au commentaire de l'évangile de ce deuxième dimanche de l'Avent, nous retrouvons le père Pascal Montavie.
L'évangile du deuxième dimanche de l'Avent nous propose de méditer sur la figure de Jean-Baptiste. Le précurseur, fils de Zacharie et Élisabeth, nous aide à nous préparer à la naissance de Jésus. Trois éléments essentiels peuvent être relevés. Tout d'abord, un lieu et une date nous sont donnés. Il nous est dit que la parole de Dieu fut adressée à Jean, dans le désert, en l'an 15 du règne de l'empereur Tibère. L'évangéliste Luc nous donne donc une date précise selon le calendrier romain. C'est durant ce temps que Dieu a choisi de se révéler en plénitude en envoyant son Fils pour le salut du monde. Notre foi chrétienne n'est donc pas une vague croyance, un sentiment plus ou moins flou que Dieu se donne à l'homme. Non. Notre foi repose sur un événement concret que l'on peut situer dans l'histoire. Il est dit aussi que la parole de Dieu fut adressée à Jean. Mais le contenu de cette parole ne nous est pas donné. Ce qui est visé n'est donc pas tant le contenu, mais le fait que Dieu parle. En ce sens, Jean-Baptiste est dans la lignée des grands prophètes de l'Ancien Testament. Ces derniers affirment sans cesse que Dieu parle. Le contenu de ces paroles, c'est à chacun de le découvrir, de le comprendre pour soi-même. Que celui qui a des oreilles entende. Il est aussi précisé que Dieu adresse cette parole dans le désert. Pour l'entendre, il convient donc de se soustraire pour un temps à nos multiples activités. Il faut savoir s'arrêter pour donner du temps à Dieu. Un deuxième enseignement de cet évangile concerne l'activité de Jean-Baptiste. Ce dernier parcourt toute la région du Jourdain pour proclamer un baptême de conversion en vue du pardon des péchés. Si Dieu adresse la parole aux hommes, c'est en vue de leur conversion, d'un changement de vie. De fait, lorsque Dieu se révèle, l'homme se découvre. Il découvre qu'il est bien loin de cette vérité et de cette bonté que Jésus nous montre. Il se rend compte du chemin qu'il doit entreprendre pour correspondre toujours plus à l'amour qui s'est manifesté à lui. Suivre le Christ, c'est être en mouvement. Ne jamais désespérer des impasses dans lesquelles je pourrais me trouver, mais être sûr que le Seigneur me donne la force et la grâce d'en sortir. Enfin, Jean-Baptiste délivre un message. Préparez le chemin du Seigneur. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées. Ces paroles se présentent sous la forme d'une image qui résonne comme un appel qui doit ouvrir sur un engagement concret. Comment faire pour participer moi aussi à la préparation de la venue de Jésus? Comment est-ce que je peux combler tout ravin, aplanir toute colline? Il y a tant de réponses possibles à cette question. Chaque disciple de Jésus y répondra à sa manière. Marie, la mère de Jésus, méditait tous ces événements dans son cœur. Pierre se voit confier la charge de l'Église et les clés du royaume. Marie, sœur de Marthe et Lazare, oint les pieds de Jésus en vue du jour de sa sépulture. Enfin, Paul se voit confier la tâche d'annoncer aux nations la bonne nouvelle du salut. Cette question, je suis appelé moi aussi à y répondre. Qu'est-ce que Jésus me demande afin de préparer sa venue dans mon cœur et dans le monde ?
Ainsi prend fin ce magazine. Retrouvez-nous sur internet www.radiovaticana.va et sur Facebook, rejoignez-nous en cherchant Radio Vatican en français. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain. Où que vous soyez.